L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 270e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre, comme toutes les semaines, Pierre.
Bonsoir.
Bonsoir, Pierre. Et comme à chaque émission, nous allons donc vous expliquer l'actualité des deux semaines écoulées. On va commencer donc par une actualité dont vous avez peut-être entendu parler dans les médias généralistes, puisque je l'ai vu passer, en tout cas dans mon journal quotidien de référence préféré. C'est le procès que l'administration américaine, donc le gouvernement des États-Unis, intente à Apple pour abus de position dominante. Alors ça leur pendait au nez quand même. Hein, depuis, il y avait quand même des bruits qu'ils laissaient annoncer.
Ils avaient anticipé quand même en commençant à montrer que non, on est gentil. C'est promis, on est gentil. On le montre. Ils avaient commencé à faire des annonces, notamment, on avait parlé aux États-Unis sur la compatibilité d'e-message avec le protocole RCS pour avoir une interopérabilité avec les messages sur Android.
Oui. Alors,
c'était annoncé pour ça, c'est pas pour l'Europe, mais ça n'est pas suffisant.
Quand on parle de position dominante, rappelons quelques éléments de contexte. Ça peut paraître surprenant en Europe où Apple a une position solide, mais a été dépassée depuis longtemps par Android et de loin. Sauf que donc ça reste quand même un objet plutôt, on va dire, une image élitiste. Hein, l'Apple, comme tous les produits Apple, celui-là un petit peu moins quand même. Moins, par exemple, que les iMac, hein, qui ont, pour le coup, un vrai imagétisme. Voilà, il y a toujours un côté effet de mode. Sauf qu'aux États-Unis, ça représente encore 65% de part de marché des smartphones.
Oui,
c'est assez. Et alors, nous dit donc, Next Impact, enfin Next.inc, 70% des parts de marché des smartphones haut de gamme. Reste à savoir comment on définit haut de gamme par le prix, je ne sais pas.
C'est par le prix en général, c'est ce qu'il y a de plus simple hein, pour définir ça. Et donc, le tout, c'est pas seulement le fait d'avoir une part de marché, c'est aussi toutes les manœuvres qui vont avec pour conserver la part de marché ou pour
être en position dominante, il faut, pour avoir un procès...
Il faut abuser de la position dominante.
Il faut déjà en avoir une également.
Oui.
C'est quelqu'un qui a des pratiques anticoncurrentielles, mais qui n'a pas de position dominante.
Oui, évidemment. Et donc, les abus, par contre, eux, sont assez évidents.
La position dominante est peut-être pas forcément compréhensible d'un point de vue français, si on ne connaît pas le contexte américain.
C'est vrai. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et donc, les abus de position dominante de la part d'Apple sont assez nombreux. Alors, initialement, on pensait que l'attaque antitrust allait être assez mal ficelé parce qu'on s'attendait pas à un truc vraiment aussi solide. Là, vraiment, le ministère de la Justice américain, donc, c'est vraiment complet ce qu'ils ont fait. C'est beaucoup plus fort aussi que ce que tout le monde avait imaginé.
Ils reconnaissent également, alors je sais pas si c'est un argument tactique pour faire passer, je dirais, la partie pratique anticoncurrentielle, mais ils reconnaissent qu'il y a un fond, je dirais, de qualité des produits Apple. On ne peut pas leur dénier. C'est que...
Ah non, mais la question n'a jamais été de la qualité du produit, ni même du service rendu. Il y a eu un cas, à ma connaissance, où on a prétendu que, l'abus de position dominante, oui, d'accord, mais ça avait bénéficié aux consommateurs, vous comprenez, donc c'est pas grave. Ça a été le cas du procès d'antitrust de Microsoft. Ils ont été reconnus coupables, mais comme c'était pas au détriment du consommateur, tout va bien. Tape sur la tête.
C'est-à-dire qu'on a été obligé de payer une taxe Microsoft pendant des années, et même on est encore souvent obligé, c'est à notre bénéfice.
Exactement.
C'est un concept. Il doit y avoir un argumentaire juridique très solide derrière tout ça.
Qui s'appelle le RUO, financement des partis politiques aux États-Unis. Mais donc, dans le cas d'Apple, là, on a un abus de position dominante qui est en plus au détriment des utilisateurs. Alors, utilisateurs qui ne le savent pas eux-mêmes, apparemment, hein, puisque beaucoup sont contents dans leur prison dorée. Et. Là, c'est à suivre, mais ça concerne vraiment tous les domaines. C'est le domaine où, notamment, Apple interdit l'utilisation de la puce NFC de ses téléphones aux applications autres que Apple. un but de position dominante, puisque dans ce cas, Apple Pay est la seule solution de paiement sans contact disponible sur les téléphones portables Apple. C'est un abus de position dominante sur les App Store, sur l'impossibilité d'avoir d'autres applications. Et j'ai vu encore passer les chiffres. Je vous rappelle que quand vous payez 1 euro sur une application sur iPhone, vous versez 30 centimes à Apple systématiquement, que ce soit un paiement dans l'application ou pour acheter l'application à la base. 30% de taxes. Oui, c'est plus que la TVA. C'est un montant qui est colossal juste pour fournisseurs de contenu et de services. C'est clairement de l'abus de position dominante. Donc, à suivre. En plus, accessoirement, Apple, ces derniers temps, ils se sont défoulés avec l'Union européenne, au point que l'Union européenne commence à dire vos comportements, là, ça commence à bien faire.
Là, pour le coup, il n'y a pas qu'Apple, il y a également Meta. Meta, qui est donc la maison mère de Facebook.
C'est ça.
Plutôt le ripollinage de façade de Facebook.
Et oui, faut se passer pour présentable, on va dire. Et donc, Meta et Apple, en Europe en tout cas, se font pour l'instant taper sur les toits en mode vous feriez mieux de changer d'attitude.
Déjà, ils se font taper sur les doigts, ce qui est déjà une bonne chose. Et on voit que...
L'Union fait la farce.
L'Union fait la force.
Que, exactement.
Il faut avoir la puissance, je dirais, l'importance du marché qu'a l'Union européenne pour pouvoir se permettre de faire ça.
Tout à fait, c'est quelque chose
qui... On est nombreux et on est riches aussi.
Oui, c'est sûr que la Chine, ils ont leurs propres produits, de toute façon, donc ils s'en foutent. Et forcément, eux, ils ont un marché où ils ont leurs propres produits, donc ils n'ont pas besoin de taper sur Meta, les utilisateurs sont ailleurs. Et donc en Europe, que ce soit Meta ou Apple, les deux se sont moqués assez ouvertement du DMA et du DSA, donc les deux gros paquets législatifs récents au niveau européen sur ce domaine. Donc ils s'en sont moqués de diverses façons, Apple notamment en menaçant d'interdire les applications PWA, les applications web sur les mobiles. Apple aussi avec différents messages pour dire que ces nouvelles lois nuisent à la sécurité des téléphones portables et que vous comprenez, c'est pas bien pour les consommateurs, mais on le fait parce qu'on est obligé, boum, méchante Europe. Ou Meta aussi en disant, si vous voulez pas espionner, il suffit de payer je sais plus combien de dizaines d'euros par mois. Tout ça, ce sont des pratiques que la Commission européenne n'approuve pas, étonnamment, et qui pourraient déclencher l'ouverture d'une enquête.
On reste avec l'Europe, alors cette fois-ci, c'est plus la Commission, c'est des députés européens, donc alors c'est pas le Parlement européen, c'est 39 députés, ce qui est bien mais pas top.
Ouais, mais c'est un début.
Bon. Politiquement, si on regarde, on va peut-être parler de du sujet précisément, donc c'est pour dire à Meta, donc le dénoncer leur chantage. Est-ce que soit vous payez, vous payez avec votre argent ou vous payez avec vos données personnelles. Hein, c'est un petit peu ça.
Tout à fait.
Le rançonnement. Donc c'est une demande de s'aligner donc sur les principes du je ne sais plus le dire en français, le règlement général du RGPD,
règlement général de protection des données.
Et donc c'est un groupe de 39 députés, donc parmi les Français, je vois des noms de Écolo et de France Insoumise.
Oui, c'est le genre, étonnamment, c'est pas du macroniste qu'on va trouver là-dedans, je sais pas pourquoi.
Il y a également apparenté socialiste.
Ah, j'applaudis l'effort. J'applaudis. Et donc, il demande à Meta tout simplement la même chose. C'est votre modèle payé ou accepté d'être espionné. Vous n'êtes pas en train de vous foutre de la gueule du monde. C'est contraire à l'esprit et au principe du RGPD. Et la Cour de justice de l'Union européenne estime que ce n'est valable que si les montants sont... proportionnel aux frais de fonctionnement de la plateforme. Or, vous ne démontrez pas ce lien, donc il y a un souci, ça ne marche pas. C'est une mise en garde de la part des eurodéputés. Moi, j'espère, j'ai hâte que Meta se fasse attaquer sur ce truc-là et se fasse bien plomber. Globalement, j'aimerais bien que l'économie de l'Internet basée sur la publicité et l'espionnage des gens s'effondre. Ça ferait vraiment du bien de remettre les choses à plat.
Ouais, il faut trouver un modèle économique.
Oui, ça serait bien qu'il y en ait au moins un, enfin, qui réfléchisse à ça. Parce que tant que le modèle...
Internet s'est construit sur le fait que, bon, une fois qu'on a payé l'accès, on ne paye pas des frais supplémentaires pour l'information. Ça remonte aussi, hein, alors peut-être pour les jeunes générations, nous, on est vieux, mais bon, voilà, on a connu le téléphone fixe, on a connu un monde où Internet, c'était quand même... Avoir Internet, c'était quelque chose d'assez particulier, hein, c'était une,
moi,
c'est un privilège d'avoir Internet.
J'ai connu les résultats du bac sur le Minitel.
Oui, c'est-à-dire que Internet, ça coûtait cher, il fallait payer un abonnement, il fallait payer un temps de communication, un nombre d'heures à votre fournisseur d'accès, et en plus il fallait payer la communication téléphonique.
Oui, c'était pas grave.
Après tout ça, les gens n'étaient pas prêts à payer des frais supplémentaires pour accéder à l'information. En plus, à l'époque, bon, typiquement, il y a beaucoup de journaux qui donnaient un libre accès à leur article, mais la quantité de personnes qui avaient Internet faisait que, au final, ça n'empêchait pas de vendre.
Ça changeait rien. Voilà. Mais ils n'ont jamais fait la transition vers un vrai modèle économique, finalement, basé sur la fourniture soit de contenu premium.
On se moque, moi le premier, Dalamac, grand penseur libéral, sarkozyste, macroniste, toujours avec le libéral dans le vent, qui disait que Internet ça marchera jamais, le Minitel, on peut facturer le temps d'utilisation et ça est reversé au fournisseur de services, avec Internet c'est pas possible, il n'y a pas d'avenir. Au final...
Il avait raison.
Et bon... sur le Internet marchera jamais, oui, mais sur le fait que le modèle économique d'Internet est toujours difficile à établir, c'était pas complètement fou.
Et on verra dans les prochaines années, mais effectivement, aujourd'hui, personne ne travaille réellement à une solution à ce problème.
On
revient
à la Commission européenne qui nous dit donc que l'utilisation de Microsoft 365 en Europe n'est pas conforme à la législation sur la protection des... Oui.
Petit lapsus de ta part, Alexandre. C'est pas la Commission européenne qui dit ça. C'est
l'utilisation de 365 par la Commission européenne ne respecte pas les lois.
Voilà, il m'a pourri ma news.
Pam,
merci.
Pourrisseur de nous.
Donc,
le
superviseur des CNILs européennes, parce que, bon, on va traduire en français approximatif, estime que l'utilisation par la Commission européenne de Microsoft 365 n'est pas conforme aux règles de protection des données valable pour les institutions et différentes entités gouvernementales européennes.
On finit avec l'Europe et un rappel, Pierre, que tu voulais faire. Le fameux bandeau sur l'acceptation ou non des cookies. Alors, certains jouent le jeu, certains ne le jouent pas du tout. C'est pas une obligation l'Union européenne.
1300, c'est mon record, je crois. Je sais pas si...
1300, quoi.
1300, c'était le nombre de trucs à accepter.
Ah, ouais. D'accord. J'ai jamais fait ce compte. T'as compté à la main ou...
Non, ils indiquent en haut, comme ça ils t'incitent à ne pas regarder les détails, tu vois. Ils disent, il y en a 1300, cliquez là.
Moi j'ai deux tactiques, soit j'ai envie de consulter régulièrement le site et je me le paluche le machin et je dis non, sinon je copie l'adresse et j'ouvre dans un onglet navigation privée.
Voilà, moi comme j'ai pas JavaScript, toi, en général ça...
Toi de base, tu as déjà les cookies. Tu refuses déjà les cookies de base, toi.
Non, moi je refuse JavaScript de base, c'est encore pire. Ils peuvent pas passer. Et donc oui, le bandeau cookie qu'on voit régulièrement sur plein de sites. Je suis sûr que là j'ai un navigateur devant moi. Je suis sûr que si je vais sur plein de sites grand public, je vais avoir un joli bandeau. Acceptez-vous les cookies.
Il y en a qui sont encore mieux. C'est que typiquement un grand quotidien du soir de référence à laquelle je suis abonné. Si tu es abonné et que tu refuses les cookies, ils refusent de te mettre les vidéos alors que tu as payé. Ça, c'est le genre de truc absolument incompréhensible.
Bah, c'est juste qu'ils n'ont pas compris. Même eux n'ont pas compris. Et alors ça se voit surtout sur des sites anglo-saxons et des sites américains qui disent « Ouais, on est obligé d'afficher un bandeau de cookies, c'est n'importe quoi, méchante Europe, gna 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 gna. » Je rappelle que ce bandeau n'est nécessaire que si les sites font de l'espionnage. Que si les sites cherchent à suivre votre comportement sur Internet. Il n'y a pas de bandeau de cookies,
oui,
je pense.
Sur lequel vous pouvez retrouver nos podcasts. Et donc également des liens vers les musiques que l'on passe et... les wikis d'émission, donc avec la liste de nos sujets, même les sujets inédits qu'on n'a pas eu le temps de passer.
C'est ça.
Un petit peu d'autopromo ne fait jamais de mal. Il n'y a pas de bannière, on n'est pas hors la loi, c'est juste qu'on ne vous trace pas.
Voilà, on n'en a pas besoin forcément. On a peut-être, je ne suis même pas sûr, on a peut-être un cookie de session, mais voilà, ça c'est un cookie technique, c'est tout. On n'a pas besoin de l'indiquer, la loi ne prévoit pas. De toute façon, la loi ne parle pas de cookies. Les bandos, c'est juste des gens qui veulent vous faire chier et vous inciter quand même à cliquer sur oui, tout accepté.
Pierre, on termine cette séquence Internet et vie privée par un petit tour au Texas.
Exactement, le Texas.
L'État oui, des États-Unis d'Amérique.
Ouais, l'État de George Abitbol surtout. Et donc, au Texas, désormais, Pornhub et d'autres sites de, du même acabit.
J'aurais pas cité les noms.
Mais en fait, ça a commencé par celui-là. C'est donc la maison mère de Pornhub a décidé de faire disparaître le site en protestation contre la loi de l'État qui les oblige à vérifier l'âge.
On verra quelle moyenne pression on peut avoir ces sites.
Et donc il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui maintenant, qui n'étaient toujours pas bloqués, qui n'avaient pas procédé à un contrôle de l'âge, qui désormais sont dans le collimateur du ministère de la Justice du Texas. Et le message de ces sites, qui me semble, paraît-il, assez compréhensible, c'est que comment voulez-vous qu'on... Enfin, est-ce que vous trouveriez normal que l'on ait à vous demander vos cartes d'identité ? Oui, parce que ouais, c'est alors, ce qu'on leur demande.
Ouais, vis-à-vis des sites porno, je n'emploierai pas le qualificatif compréhensible. C'est pas le terme que j'emploierais.
Alors moi, de mon point de vue, en tout cas, c'est tout à fait normal de ne pas vouloir confier justement à ce genre de site un document d'identité officiel.
On est bien d'accord.
Voilà. Ah. Et effectivement, on est sur le même problème que ce qui s'est passé en Angleterre, en Australie de mémoire, et en France probablement. C'est que il n'y a pas de solution technique proposée par les États. La place, c'est juste faites comme vous voulez.
La France connecte.
Ouais. France connecte. Ça serait drôle.
Ce serait rigolo.
C'est très très drôle. J'ai hâte de voir ça.
Des actualités logiciels libres. En veux-tu, en voilà. Après un premier morceau de musique, nous allons donc écouter Neon Night Club Golden. Vous écoutez les codes Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Yeah.
Attends, Alexandre. Alexandre, t'as pas ton micro pour l'instant. Voilà, le bouton, il déconne. Non, voilà, maintenant, ils t'entendent.
Vous m'entendez ?
On va changer de micro tout à l'heure.
Vous m'entendez ?
Oui,
ils t'entendent. Je vous entends, j'entends la foule en liesse. C'était donc Neon Night Club Golden. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus en 16,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la deuxième partie des actualités. Nous allons parler logiciel. Logiciel libre ou logiciel qui ne sera bientôt plus libre. Pierre, tu veux parler de Redis. Hein, si, c'est un, la liberté sous un puits d'applaudissements. Honteusement.
Exactement. Alors, Redis, pour ceux qui ne savent pas...
Infligez-vous l'épisode de... Ah non, c'est le 3, pardon.
C'est le 3, celui-là, c'est le 3, c'est pas le pire, mais voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Redis, c'est un logiciel qui est utilisé côté serveur, donc ça concerne pas grand monde. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'est-ce qui lui arrive à ce petit logiciel. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, c'était un logiciel libre, sous une licence tout à fait acceptable vis-à-vis de la
Free Software Foundation, les quatre libertés.
Debian. C'est ça, respecter les quatre libertés. Liberté d'étudier le logiciel, de le redistribuer, de le modifier et de l'utiliser comme on veut. C'est le principe fondateur d'un logiciel libre.
La seule limite, c'est la loi.
Oui, étonnamment. Voilà, oui, c'est simple.
Quand on
dit
comme on veut, c'est qu'il y a quand même la loi. C'est-à-dire que... Bon.
Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que derrière Redis, c'est une entreprise. Il y a une entreprise, alors je crois que c'est Redis Corp, enfin Redis Soft, je ne sais plus le nom qu'ils se sont donnés. C'est une entreprise qui est là pour le développer. Depuis quelques années, ils avaient déjà commencé à mettre des modules supplémentaires. Redis Labs, pardon, j'ai retrouvé le nom. Et donc, depuis quelques années, ils avaient déjà commencé à mettre des éléments supplémentaires, des modules, sous une licence open source, mais pas libre. La licence SSPL. On en parlera un tout petit peu plus après. Et depuis là...
Ça va finir en déguicalisation, cette histoire, Pierre.
Ça pourrait. C'est vrai qu'on pourrait bien se marrer. Et donc, depuis pas longtemps, ils ont décidé, c'est bon, désormais, tout le code est disponible uniquement sous licence Redis Source Available License ou la licence SSPL, au choix. Alors, quand une licence parle de Source Available... Moi, les seuls autres que je connaisse qui ont ce type de licence, ça s'appelle Microsoft. Parce que Windows est sous une licence Source Available si vous êtes une grande université américaine. C'est pas mon cas. Désolé, j'ai pas pu voir le code. Et donc, le code Redis, désormais, n'est plus un logiciel libre.
Alors, rappelons quand même que le code qui avait été jusqu'à présent diffusé sous licence libre est toujours disponible. On peut pas retirer la licence.
Évidemment. Ce qui a déjà été diffusé. Et il y a quelques petits problèmes techniques qui vont apparaître pour Redis. Alors, c'est réglable, j'ai envie de dire, malheureusement. Alors, ils vont pouvoir dire, les anciens bouts de code, ils sont sous cette licence-là. Par contre, tous les nouveaux bouts de code qu'on a mis partout, ils sont sous la licence propriétaire. Et voilà, vous êtes coincé. Ça, malheureusement, ils vont pouvoir évoluer comme ça. Il faut qu'ils fassent très attention à ne pas retirer les informations de licence de l'ancien code.
Tu as l'air de connaître un peu le projet. Est-ce qu'il y a une communauté suffisante pour faire un fork libre ?
La communauté, ça va être les grands clous d'œufs comme Amazon,
oui,
Microsoft.
Pas des gens qui vont faire un fork libre.
Si, mais un fork pour eux et qui vont maintenir uniquement pour leurs besoins. Voilà.
C'est ce qui est forcément libre.
Non, parce qu'ils s'en foutent. Et finalement, on en revient toujours au même problème, comment on finance un projet de logiciel libre. Et la conclusion, à chaque fois que je vois ce genre de débâcle, c'est on n'a pas réussi à faire un modèle, c'est que le logiciel libre, ça marche pas. Moi, ça me gêne comme conclusion, parce que c'est pas ça, en fait, la conclusion. La conclusion, c'est vous avez fait du libre pour faire le buzz, et ensuite, vous vous êtes dit « Ah merde, on a oublié, on peut pas faire comme ça, pardon ». C'est plutôt ça, c'est un échec de business, mais on se rattrape comme on peut en faisant passer ça comme un échec de la licence libre. Et je profite, Alexandre, je tiens à passer un message un peu solennel ici. Alexandre, me le permets-tu ?
Petit jingle solennel ?
Non, on va pas faire le jingle solennel.
On va pas faire le jingle solennel, d'accord.
Je voudrais juste dire, je tiens à utiliser cette antenne pour préciser, je souhaite... Si jamais je n'étais plus en mesure de répondre à cette question, non, tout le code que j'ai contribué au noyau Linux ou à d'autres projets, je refuse qu'il soit réattribué sous une autre licence. Donc désormais, le noyau Linux aura toujours au moins, jusque ce que soit remplacé, du code sous licence GPL2, parce que c'est la différence entre voilà, Redis et beaucoup d'autres projets. Enfin, un vrai projet libre et des projets comme Redis, c'est que ben, là, pour Redis, je crois qu'il fallait signer un document pour contribuer au logiciel, pour dire l'entreprise Redis a les droits. Alors que un vrai logiciel libre, non.
Tous les logiciels auxquels tu contribues...
Je ne signe pas ce genre de document.
Oui, et tu restes donc détenteur des droits d'auteur du code que tu as rédigé, que tu as
exactement.
Écrit. Donc, auquel tu as contribué.
C'est pour ça, le noyau Linux ne peut pas subir le même avenir que ce projet. Le Linux est un logiciel libre et le restera à vie parce que on ne peut pas recontacter tous les auteurs. Certains sont déjà morts, certains n'auront pas envie, et il suffira d'une personne pour que ce soit la galère sans nom. Parce qu'il faudra retrouver toutes les traces de ses contributions et en déduire toutes les contributions qui en ont été dérivées et qui, du coup, sont contaminées. C'est impossible. On ne peut pas changer la licence d'un projet qui n'a pas eu de telles inepties légales pour dire « j'abandonne mes droits ». Et donc, un vrai logiciel libre, au moins, c'est un logiciel libre qui le restera parce qu'ils n'ont pas ce genre de laïus juridique à la con qui sert uniquement à couvrir les investisseurs initiaux.
Pierre, tu aimes Rust, tu aimes parler de Rust et tu aimes parler de l'utilisation de Rust pour écrire du code Linux. Et tu t'interroges, est-ce que ce ne serait pas le tour des pilotes de cartes graphiques ?
Alors, c'est une interrogation un peu fausse de ma part, j'avoue. C'était pour faire un joli titre. C'était rhétorique.
C'est une question rhétorique, évidemment.
Parce que effectivement, c'est le tour des cartes graphiques. Parce que, petit rappel, sur votre ordinateur, la carte graphique est un ordinateur à part entière. C'est un gros machin. Très, très, très gros. Finalement, ça gère beaucoup trop de choses pour la santé mentale de quiconque touchant à ce truc. Mais vraiment beaucoup trop. On en a déjà parlé dans la dernière dégeekalisation. Et donc, au sein du système d'exploitation, la carte graphique, c'est un énorme morceau et c'est quand même une grosse source de problèmes. Il y a eu pas mal de failles de sécurité, il y a eu des problèmes de stabilité, etc. autour de tout ça. Donc, forcément, quand on parle d'un langage de programmation pour écrire du code avec moins de risques de failles et de bugs, c'est la bonne cible. Et donc, on a deux projets autour de tout ça. On a eu cette semaine l'annonce des premiers éléments pour écrire des pilotes de carte graphique en Rust sous Linux. Et dans la foulée, l'annonce de la part de Red Hat d'un nouveau pilote pour les cartes NVIDIA qui se base sur Rust uniquement et plus sur le langage C, donc pour améliorer la stabilité pour le système NVIDIA.
Petit cocorico, VLC passe la barre des 5 milliards de téléchargements. Donc.
Voilà.
Nos téléchargements officiels. Je ne sais pas si les téléchargements pleins de blobware de 0.net sont comptés, mais
non, ceux-là ne sont pas comptés.
C'est juste pour la polémique stérile, monsieur Pierre.
Ne sont pas non plus comptés les téléchargements pour les distributions Linux. Ou les téléchargements
pour les versions Android ? Si, je ne sais pas.
Alors, pour les Android, c'est compté. Sont comptés les Play Store, les Apple Store, les Windows Store, je crois que ça s'appelle. Je ne sais plus le nom pour Microsoft.
Un des plus beaux projets du logiciel libre, un des plus connus.
Ah ben oui, clairement.
Pour le petit cocorico, donc c'est un projet qui est d'origine française, donc qui a été créé par des étudiants à l'École centrale de Paris.
Tout à fait. Et je voudrais juste aussi en profiter, ce que VLC en a parlé. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps de creuser. C'était juste un tweet que j'ai vu. Ils ont un petit problème en ce moment.
T'as vu des tweets, toi ? Pardon.
Non, mais je l'ai vu passer dans mes actualités, mais j'arrive pas à utiliser l'interface pour comprendre les détails. Justement, c'est le problème parce qu'il faut avoir un compte pour regarder ces trucs-là maintenant. Et donc il y a un petit problème. Par contre. Ça illustre aussi la petite joie des plateformes fermées comme ça, c'est qu'aujourd'hui, VLC ne peut pas diffuser de mise à jour sur App Store, Play Store et Windows Store, je crois, qui n'ait pas des conséquences négatives pour tous les autres. Parce que y a des frais. En fait.
Expliquez-vous.
S'ils diffusent leur mise à jour, notamment sur le Windows Store, je crois, ça ne couvrira plus certaines machines qui ont été abandonnées du Windows Store. Apparemment, les vieux Windows 8 sont abandonnés.
Ouais.
Mais donc, s'ils veulent mettre à jour les vieux Windows 8, eux ne seront jamais mis à jour, ils vont rester avec leur version sans mise à jour de sécurité. Ils ont des problèmes avec le Play Store Android, où on leur demande, vous voulez mettre à jour ? Oui, mais dans ce cas, vous devez cibler uniquement telle version d'Android ou supérieure. Mais on a des utilisateurs sur les anciennes versions qu'on veut mettre à jour aussi. Allez vous faire foutre.
Eh ben tant pis. Ok.
Donc, vive les plateformes de distribution d'applications fermées, encore une fois.
Et vive les dépôts logiciels des distributions Linux.
Exactement.
Et vive Debian.
Au passage, cette émission est faite en partie avec VLC, puisque c'est VLC qui lit les morceaux de musique.
Edge et OneDrive sont désinstallables, merci le DMA, le Digital Market Act.
Tout à fait.
C'est encore la faute de l'Europe.
C'est, ben ouais, sauf que là, Microsoft, ils n'ont même pas dit « Oh, méchante Europe ». Oui, ils l'ont fait sans gueuler. Ça fait bizarre.
C'est... Microsoft qui fait le bon élève, entre guillemets. C'est étrange.
Non, ça fait bizarre. Hein. Puis, ben, tant qu'à faire, je trouve que c'est l'occasion de rappeler, parce que on l'a déjà dit dans cette émission, enfin, après moi, c'est des faits que je relate, parce que je n'ai pas Windows pour me rendre compte de la chose, malheureusement, ou heureusement pour ma santé mentale.
Tu dois pas te le taper au boulot. Quoi ? Et pas à supporter cela au travail, monsieur.
Exactement. Vive ma santé mentale. Et donc, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, il y a une différence entre le Windows européen et le Windows américain. Enfin, pas européen. Hors Union européenne, apparemment, ça commence à... Enfin, ça se voit que c'est
ça
pas le même.
C'est comme le Super Nintendo, et alors la version américaine, la version japonaise et la version européenne.
Ça devient un peu ça. Sauf que la version européenne, là, c'est la mieux, apparemment. Et donc, aux États-Unis, il y a eu un pop-up de pub sur Chrome pour inciter les gens à passer sur Bing Search et activer les services Bing. Oui. Et ce qui a encore plus fait râler, c'est que le pop-up était tout pixelisé, on aurait dit un truc de phishing. Tellement c'était mal fait, apparemment. Bravo Microsoft, mais donc ça, ces trucs-là, ils ne les font plus en Europe. Ils peuvent plus.
C'est bizarre parce que Google, il fait encore ça en Europe, par contre. Hein.
Ouais.
Quand tu consultes un site Google avec autre chose, devant subir Edge au travail... ça m'arrive hein, de leur supporter ça.
Oui, ben justement, ils vont...
Par contre, c'est que de mémoire, avec mon Firefox perso, il n'a pas l'air de trop m'embêter. Mais...
La guéguerre continue.
On retrouve quelques actualités diverses et variées après un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter Lazy Bee, Baby Bird. Vous écoutez l'écho des nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusville.com.
Please don't forget me, 'cause I'm the one who dried your
C'était Lazy Bee, Baby Bird. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusville.com. C'est la troisième partie des actualités. On va donc vous présenter des brèves diverses et variées. Pierre, allez, une petite rubrique insolite. Des fois, ça manque un petit peu. Des vers informatiques se propagent entre camions.
Entre camions, tout à fait.
Entre camions.
Oui, c'est pas une blague. T'as dit le lien ou pas?
Non, j'ai pas
c'est bien, c'est parce qu'il faut garder du suspense, t'as raison. Donc, aux États-Unis, ça se passe aux États-Unis, la loi oblige les camions à disposer d'un appareil d'enregistrement électronique, donc qui va enregistrer les heures de conduite réalisées par les conducteurs.
Ouais, ça c'est en France aussi. Alors, c'est peut-être pas électronique, mais le chronotachygraphe pour vérifier.
Exactement. Et donc là, c'est un chronotachygraphe électronique qui communique en Wi-Fi et Bluetooth. Et qui est relié au buscan du camion. C'est pas vrai, vous êtes con. Quand j'ai lu l'article, j'ai eu du mal à y croire. Et donc en fait, les camions
reliés au buscan, c'est-à-dire que c'est directement relié aux données opérationnelles
oui,
du
camion. Oui, pas que attention, c'est pas que les données opérationnelles, mon ami. C'est là où ça va être encore plus drôle.
Ouais, l'air menaçant de Pierre, vous le voyez
donc,
pas.
Donc. Premier élément, il se trouve que ces ELD, en anglais, sont effectivement pas conçus avec la sécurité informatique en tête. Bon, on n'y a pas pensé, désolé.
Ça coûtait trop cher, donc
piratable à distance. À distance, courte distance. Mais, comme ils peuvent communiquer en Bluetooth, ils peuvent se contaminer les uns les autres. Donc,
s'associer mutuellement.
Non.
Normalement, tu dois...
Voilà, mais non.
C'est-à-dire qu'ils sont en open... D'accord, ils sont en écoute par défaut.
Ouais. On s'en fout, d'accord, la sécurité informatique, okay. Enfin.
Ouais.
Et donc, on a des appareils, effectivement, où un ver pourrait, en l'état, se propager de camion en camion à travers le continent américain.
Et les épidémies de camions.
C'est magnifique. Et donc, ça a un accès au buscan.
Pourquoi on appelle ça épidémie, c'est pour les humains. L'épizootie des animaux. L'épitruquie.
Je sais pas, faudra inventer un mot.
L'épitruquie.
Ouais. Mais donc... On parle de théorie, heureusement, mais voilà, ça va peut-être donner des idées à certains. Mais il pourrait très bien y avoir demain un ver informatique qui se propage et qui attende tranquillement 6, 9 mois de s'être bien propagé partout pour du jour au lendemain.
Donc là, on parle de danger théorique.
On parle d'un danger théorique prouvé sur certains appareils,
oui.
En fait.
Non, on parle d'un danger potentiel, mais il n'y a pas encore eu de cas d'exploitation.
Heureusement.
Et normalement, ce genre de papier sert à alerter en disant « faudrait faire quelque chose, il y a peut-être un petit rétrofit de camion à faire ».
Ouais, tout petit.
Ah, le but, ce n'est pas d'inciter à s'en servir, c'est justement de dire, de rendre public pour dire qu'il faudrait faire quelque chose.
C'est ça. Et donc, vu que ça peut envoyer des messages arbitraires sur le buscan, ça peut couper certains éléments. Ça peut envoyer des commandes. Le buscan, il y a des informations sur l'éclairage des phares. Par exemple, qui sont mises, tous les camions s'éteignent, a plus de phare. Ou le klaxon qui va s'allumer partout, tout le temps. Ou, potentiellement, sur certains modèles, ça pourrait aller jusqu'à interférer avec des éléments de conduite. C'est chaud.
Et, on dirait un scénario de film catastrophe, un peu science-fiction.
C'est ça, ouais. Ça pourrait être vachement drôle. T'as raison. Il faudra envoyer l'article.
Pas drôle le film, hein, pas que. Non, on est d'accord. Pas que ça soit réellement utilisé.
Oui.
Entendons-nous bien. Alors, BitTorrent n'est plus le leader des envois de données. Alors, Personnellement, ça ne m'a pas plus surpris plus que ça. On sait la place prépondérante qu'a pris le streaming avec YouTube, avec Netflix mais, et consorts, donc qu'il y ait de moins en moins de téléchargements.
Mais non, justement. L'envoi, le téléversement,
oui,
pas le téléchargement.
Enfin,
Alexandre, la différence cruciale.
Voilà.
Et donc, non, là, c'est effectivement, moi, ça m'a surpris du coup. De voir que c'est plus le roi du téléversement, parce que, donc, rappel, télécharger, vous récupérez des données chez vous, téléverser, vous envoyez des données de chez vous vers Internet. Et donc, le torrent, BitTorrent, les systèmes de peer-to-peer, c'était jusqu'à il n'y a pas si longtemps le truc où on vous repérait parce que vous envoyiez des tas de données sur Internet. Et effectivement, maintenant, on se rend compte que,
eh ben, oui, BitTorrent, on parle plutôt là, effectivement, du streaming, les plateformes comme Twitch et compagnie. Et c'est vrai que maintenant, on peut facilement, avec l'apparition, donc avec pas l'apparition, mais la généralisation de la fibre optique, c'est maintenant qu'on peut voir des usages. C'est vrai que tu parlais d'accès à Internet symétrique, c'était peu utilisé. Et maintenant, c'est vrai que les ados, alors je ne veux pas stigmatiser, hein, mais c'est quand même le public cible, peut facilement mettre en ligne sa partie de son jeu vidéo préféré.
Et donc, là, débit. Maintenant, le plus de trafic utilisé en upload, donc en téléversement, serait sur les applications de stockage cloud à la Dropbox, OneDrive et autres, FaceTime, Google, YouTube. L'envoi de vidéos sur YouTube, notamment. Et donc, BitTorrent est déclassé par tous ces usages qui sont, je le rappelle, propriétaires. Encore une fois.
BitTorrent étant un protocole libre.
Exactement.
Et utilisé pour des
usages tout à fait légitimes. Genre le jeu vidéo World of Warcraft.
Pierre, cela serait-il possible une faille sur les processeurs Apple ?
Oui, alors on parle plus trop des failles de sécurité sur les processeurs parce que il y en a régulièrement et que honnêtement, il y a eu la première d'Intel qui était calamiteuse où ils ont réussi leur coup marketing en faisant croire que oui, mais en fait tout le monde a des failles, regardez. Alors que eux, ils en avaient une vraiment vraiment vénère. Et donc, ben là, du côté de Apple, ben, oh tiens, eh ben, notre processeur qui est conçu sur le même principe que les autres processeurs, il a les mêmes failles de fonctionnement, dites donc. C'est étonnant. Donc, c'est juste un message de service. Si vous tombez sur un fanboy d'Apple, vous pouvez imprimer cette information et lui faire manger le papier. Comme ça, ça devrait régler deux problèmes à la fois.
Espérons que le papier n'ait pas été produit avec trop de produits chimiques.
Si, c'est ça la résolution du deuxième problème. Mais voilà.
Allez Pierre, une dernière news pour la route.
On va prendre Stroutrou.
Stroutrou.
Vas-y, essaye de dire son nom.
Non. Merde. Je refuse.
Merde, j'ai perdu.
Non, pas comme ça.
Oui, surtout que j'ai fait une faute de frappe, j'ai oublié une lettre. Donc, Bjarne Stroutrou, pardon.
Enfin, c'est pas des noms de famille, des gens comme ça.
Non, c'est vraiment dur à dire celui-là.
Imagine un Américain qui essaie de prononcer le tien. T'as.
Ah oui, je sais, j'ai déjà entendu, c'est drôle. Et donc, il est créateur du langage de programmation C++ et il est chonchon parce qu'il se trouve que la Maison Blanche a dit publiquement qu'il serait temps que les développeurs arrêtent le C++ pour passer à des langages comme Rust ou Go qui sont sûrs et qui n'ont pas de problème de sécurité.
Pierre, tu ne dis pas autrement, tu dis pas autre chose. On t'entend quand même faire la promotion du langage Rust régulièrement dans cette émission.
Tout à fait. Et c'est pour ça, alors de la part de Stroutrou, je comprends l'argument, je l'entends, mais l'humanité est débile, monsieur Stroutrou. Donc, l'humanité, vous pouvez pas dire non, mais arrêtez le C++ peut être sûr, il suffit de l'utiliser correctement. Les gens sont cons, les développeurs encore plus. Donc,
on
forcément.
On fait tous des erreurs. On reste des humains.
L'humain est faillible. C'est le cœur du problème. Tout repose sur ça. L'humain fait des erreurs.
Il a même créé une machine pour générer des erreurs, ça s'appelle l'intelligence artificielle.
Exactement. Et donc, même si, voilà, Monsieur Stroutrou dit, il suffit d'utiliser ce sous-ensemble du C++ qui, lui, n'a pas les failles. Oui, mais le monde entier ne va pas changer ses habitudes. On n'arrivera pas à faire évoluer les habitudes des développeurs. Donc, les failles vont rester tant qu'on ne changera pas suffisamment radicalement pour que les gens doivent avoir de nouvelles habitudes. C'est aussi triste que ça. Moi j'aime bien les évolutions.
Ouais, pas changer radicalement les habitudes des gens.
Il faudrait réussir à mettre sur la paille beaucoup de développeurs pour que du lot ne survivent plus que ceux qui acceptent de s'adapter et d'évoluer. Pierre, mais ça va être un peu compliqué, Pierre, c'est un peu extrême.
Si tu pouvais éviter de faire la politique, s'il te plaît.
Oui, c'est déconseillé, il paraît.
La dégicalisation, c'est après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter Night Woodpeckers, Steelerman, pas du tout. J'ai oublié de mettre à jour dans mon fichier.
Allez, je vais le faire pour toi. Nous allons écouter
Cloud Veil.
Cloud Veil, Dome de Neuschwander.
Ouais, un truc comme ça. Ça a l'air allemand. Ça a l'air teutonique.
Okay. Toujours sur Radio Campus 106,6
ou ça, machin bidule.
Allez.
C'était Neuschwander, Cloud Veil, Dome. Vous écoutez Codez-nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la dégicalisation. Et Pierre, aujourd'hui, va faire de l'archéologie, une nouvelle trouvaille archéologique. Pierre est un peu notre Indiana Jones, il a son chapeau, mais pas de fouet. Microsoft OS 2 2.0 PR2, Pierre, explique-nous tout ça.
Oui, alors, tu as bien noté Microsoft OS 2.
Pour moi, c'est un système d'IBM.
Mais justement, c'est là la blague et c'est là l'importance finalement de ce genre de trouvailles archéologiques. Alors, revenons un tout petit peu à l'histoire du PC. On a parlé déjà il n'y a pas si longtemps de 86 DOS, l'ancêtre avant même Microsoft DOS.
L'IBM PC,
c'est First One. Et avant l'IBM PC, évidemment. L'IBM PC donc a été conçu en partenariat le système d'exploitation a été conçu par Microsoft pour IBM et donc vendu sous le nom de PC-DOS sur les ordinateurs IBM et sous le nom de MS-DOS. C'était pas le même système sur les ordinateurs non IBM. Donc nous avions IBM-DOS et PC-DOS et Microsoft-DOS qui étaient parfaitement compatibles, hein, mais c'était quand même pas supposément le même. On est sur du détail historique, hein, là-dessus, je vous rassure, pas très important. Mais donc, les deux partenaires travaillaient main dans la main et ils se sont rendus compte que, bon, DOS, c'est joli, c'est mignon, mais le PC, finalement, c'est vachement plus que ce qu'on voulait. Et il y a des putains de cloneurs qui sont en train de nous pourrir notre petit marché, là, en faisant des machines mieux que nous, à moins cher. On va reprendre la main, on va inventer le PS2, donc le nouveau IBM PC, nouvelle génération, avec que des bus fermés dedans, comme ça on aura la main complète et personne ne pourra venir les cloner. C'est un échec, ça n'a pas marché.
Il restait juste le,
petit spoil.
Le connecteur PS2. Les
claviers, ouais, c'est l'un des survivants. Et donc, à côté de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit aussi, bon, DOS, c'est limité, on va développer un nouveau système d'exploitation et on va le faire. Bah, Microsoft, ça s'est bien passé avec, pour faire pour DOS, on va faire un petit partenariat. Et c'est de là qu'est né le projet OS 2, le deuxième OS pour le PC. Et si on cherche des exemples d'échecs industriels majeurs dans le monde de l'informatique personnelle, je pense qu'OS 2 est l'un des plus grands échecs industriels de ce domaine. Donc, je ne vais pas vous faire toute l'histoire d'OS 2, j'y en aurai pour une à deux heures facilement. On va juste parler un petit peu, et effectivement on n'a pas assez de temps, on va parler un petit peu de l'histoire de ce projet, et finalement de ce que c'est cette relique qui est sortie. Il faut voir que dans les années 80, c'était le début finalement des interfaces graphiques ou à destination du grand public.
La première ayant été popularisée par Apple.
Tout à fait, basé sur les travaux de Xerox, évidemment.
Vous savez tout ça.
Tout le monde était en extase dans le milieu des sachants en informatique, mais c'était l'idée, la difficulté était de se dire comment apporter ça à un tarif raisonnable au grand public, aux professionnels. Aux professionnels avant tout, parce que ça allait coûter de l'argent quand même. Et donc, Microsoft, en la personne de Bill Gates, croyait fermement en ce rêve et avait décidé de se lancer sur le projet Windows, tout en continuant de travailler main dans la main avec IBM sur le projet OS 2. Et les premières versions d'OS 2 n'avaient pas d'interface graphique. La première version d'OS 2, c'était encore un système d'exploitation textuel. Mais IBM voulait aussi suivre cette tendance des interfaces graphiques et a commencé à travailler avec Microsoft sur la partie d'interface graphique d'OS 2, donc le Presentation Manager, tout en sachant que Microsoft, de son côté, ils avaient les mains dans deux paniers, ils avaient... La stratégie, on bosse avec IBM, et la stratégie, on fait Windows. Et donc, Microsoft OS 2, c'est une relique de cette période un peu trouble, où nous avions IBM et Microsoft qui travaillaient ensemble sur un même projet, sur le même code, à une époque où les outils de collaboration n'étaient pas ce qu'ils sont, à une époque où Microsoft avait une mentalité que l'on pourrait qualifier d'agile, si on voulait utiliser les termes actuels, alors que du côté d'IBM, on était sur une mentalité d'informatique à papa assez sclérosée, pour être courtois. C'est-à-dire que les développeurs d'IBM étaient payés à la ligne de code produite. Ce qui est un indicateur d'échec assez retentissant dans le monde de l'informatique aujourd'hui, pour vraiment passer les détails. Et donc, nous avions ces deux entreprises qui se battaient, qui essayaient de pousser dans deux sens différents. Parce que
IBM avait compris que c'était fait un peu piégé par Microsoft.
Sur le cas de DOS.
En 1980, c'était la machine, le matériel qui avait de la valeur. Et en fait, Microsoft avait compris rapidement que le logiciel avait de la valeur.
Exactement.
Plus que le matériel.
Donc IBM essayait de le faire à l'envers à Microsoft, alors que Microsoft, eux, ils s'en foutaient d'IBM, ils voulaient juste continuer à avoir un marché ouvert pour vendre le plus de leurs licences possible. Et donc Microsoft continuait en parallèle. Donc il faut vraiment voir la complexité qui était l'informatique à l'époque. C'est finalement la période où le monde d'informatique d'aujourd'hui s'est créé. Il faut voir qu'à l'époque nous avions, mais vraiment ça devait être le chaos dans ces boîtes-là, puisque nous avions donc IBM qui travaillait sur OS 2, Microsoft qui travaillait sur OS 2, qui avait aussi sa propre version d'OS 2, qui était la Microsoft OS 2, qui était pas celle vendue par IBM, et qui travaillait aussi en même temps sur le projet Windows, à destination des machines qui tournaient sur Microsoft DOS, qui pouvaient être des PC, mais aussi des clones de PC. Et au sein du projet OS 2, au sein de l'interface graphique, Microsoft avait même proposé et offert la possibilité de lancer des applications Windows. Parce que Windows, c'était balbutiance. Windows, c'était un échec jusqu'à maintenant. Et donc, on est à cette période où, le Microsoft OS 2 qui est ressorti d'un carton, d'un placard, c'est quelqu'un qui a retrouvé une boîte sous scellé, il me semble, de la deuxième version de test d'OS 2 2.0 de Microsoft. Et cette version, donc, on peut lancer. Alors avec des bugs, etc., c'est une version de test, on peut lancer des applications Windows, on peut lancer des applications OS 2, on peut lancer des applications DOS, plusieurs applications DOS en même temps, des tas de choses que Microsoft Windows ne faisait pas encore à l'époque. Windows 2.0 ne faisait pas tout ça. Et on se retrouve avec un système en fait, qui aurait pu marcher et qui aurait pu révolutionner l'informatique. Mais l'histoire n'a pas voulu ça, malheureusement, puisque ben, Microsoft a continué le travail sur Windows 3.0, et Windows 3.0 est sorti peu de temps après cette dernière version de test d'OS 2.2. Et Windows 3.0, ça a été le succès de Microsoft, parce que, et là, pour terminer la leçon d'histoire, le grand échec, finalement, ce qui, d'après beaucoup de gens, a été le clou final dans le cercueil d'OS 2, ça a été une décision d'un commercial chez IBM, enfin d'une armée de commerciaux plutôt chez IBM, qui vendait des ordinateurs avec des antiques processeurs 286 dans les années 80 et disait « Il faut que le nouveau système d'exploitation il soit compatible avec ces ordinateurs qu'on vend hyper cher aujourd'hui parce qu'on se fait plein de marge dessus. » Donc leur nouveau système d'exploitation était bridé à mort pour pouvoir être compatible avec du matériel antique sur lequel personne n'aurait envie de faire tourner une interface graphique. Ça ne peut pas marcher, les gens. Soyez pas cons. Et donc, tout ça...
N'écoutez pas les commerciaux.
C'est ça, n'écoutez pas les commerciaux. C'est la technique, les contraintes techniques sont réelles.
Les gens qui vous apprennent à vendre des choses et prétendent que les ingénieurs ne comprennent pas comment vendre le logiciel, au final.
C'est ça.
Ils ne sont pas forcément plus compétents. Sur la question, merci Pierre pour cette histoire...
Rigolote,
ouais.
Mais c'est le monde informatique, c'est comment ça.
Édifiante.
Bah ouais, mais comment on est arrivé finalement à la situation? Parce que même encore aujourd'hui, on est toujours sur un monopole de Windows concrètement.
Sur un marché qui se rétrécit, qui est celui des ordinateurs personnels.
Le marché des ordinateurs personnels s'effondre, c'est ce qui fait que des alternatives émergent, mais les alternatives émergent sous la forme des téléphones portables intelligents, sous la forme de matériel, on va dire. Spécialisés, les box télé qui vont être avec des Android télé ou autres. Vous allez avoir certaines formes d'ordinateurs portables, et encore, c'est minoritaire le nom Windows là-dessus.
Point sur l'agenda, on ne nous a pas dans la dernière émission, donc une conférence en non-mixité, bon, on a dit ce qu'on en pensait, et c'est hélas encore nécessaire. On ne réjouit pas. Donc, j'ai annoncé quelques jours après. Alors, j'avais fait un lapsus. Hein, j'avais dit journée de la femme. C'est évidemment la journée internationale du droit des femmes.
Ah, putain, oui. Je n'avais pas noté.
Ouais. Ben moi, je. Effectivement, j'étais pas fier quand je me suis réécouté. Donc, c'est demain pour ceux qui nous écoutent en direct de 18h30 à 20h. Donc, chez Zenica ou au Zenica. Je sais pas si c'est chez quelqu'un ou une salle. 19 avenue Saint-Maur, donc à la Madeleine, pas très loin de Lille. Donc, tramway, je ne sais plus si c'est Saint-Maur ou un autre, mais bon, c'est facilement desservi par les transports en commun. Une soirée donc, pour les développeuses de logiciels libres et le monde de l'associatif. Et mardi, donc la permanence de l'association Ch'tinux, mardi 26 mars, donc c'est après-demain, pour ceux qui nous écoutent en direct, de 19h30 à 20h au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille. Et comme d'habitude, un choix de boissons équitables et biologiques, ma foi, d'un fort beau gabarit.
On est vieux.
C'est un événement libre en fait, un autre événement donc libre en fait. Donc il y a un mois, une quinzaine donc d'événements autour du logiciel libre. Donc c'est une conférence, les logiciels libres, enjeux pour la souveraineté et le développement durable. C'est vrai qu'on parle beaucoup de souveraineté, un petit peu moins de développement durable dans cette émission. Ça nous arrive. Effectivement, ça,
c'est plus compliqué d'évoquer ça dans mon cas de l'informatique, malheureusement.
Donc, histoire et principe du logiciel libre, introduction au débat. Donc, ce sera vendredi, le 5 avril, de 18 à 20h, au FAL, 20 rue de Lille à Roubaix. Desservi également par le métro. Je ne vois pas lequel se trouve, Roubaix-Charles de Gaulle. Bref, vous regarderez et n'hésitez pas à aller consulter l'agenda du livre. C'est donc la 272e émission de l'Écho des Gnous. On se retrouve dans deux semaines pour le 271e numéro.
Peut-être dans deux semaines. Alexandre
peut-être dans deux semaines.
Peut-être
Pierre tout seul. Nous verrons bien. La deuxième ligne, c'est dans une semaine à 19h. Et on se retrouve. Au revoir à tous. Bonne fin de week-end.
Bye bye.